deuxième séance. On a le plaisir d'accueillir avec nous Ramar Amidré, qui est conférencier à l'association dans le domaine LEV. La semaine dernière, c'était Ralph Bauer qui nous a lancé la première séance. La semaine prochaine, donc, il y aura une confrontation entre guillemets entre les deux points de vue qui vont être exprimés, donc entre Ralph Bauer et Ramar. On vous rappelle que si vous voulez bien, il est nécessaire de s'inscrire en fait, au séminaire.
Avec la permission de Rav Weinstein, merci. Donc, comme Jean-David le précisait, il y a déjà eu donc, une intervention la semaine dernière par le Rav Bauer, et on va, sans faire exprès, s'efforcer de développer une vision différente de ce qui a été amené la semaine dernière. Et donc, les personnes qui ont déjà assisté à ce qui s'est passé la semaine dernière, ils vont devoir faire un effort particulier de faire une sorte de reset, parce que si on reste sur les données qui ont été développées la semaine dernière, alors ça risque d'être un petit peu bloquant. Donc voilà, cet effort est nécessaire, et pour les personnes qui y débarquent, eh ben, c'est d'autant plus facile. Alors donc, au niveau des documents, vous avez deux documents qui ont été distribués, donc j'espère que tout le monde a ce qu'il faut. Le premier, donc, c'est les références, ce sont les versets sur lesquels on va travailler. Et le deuxième document, c'est un petit peu la trame de l'exposé, qui ne devrait pas vouloir dire grand-chose avant qu'on en parle, et une fois qu'on en parlera, j'espère qu'il sera beaucoup plus clair. Donc, je vous propose, si vous voulez, donc, d'abord, de relire les versets de la façon la plus littérale possible, et de dégager les sept points qui ressortent de ces versets. Donc, c'est le grand 1 que nous avons marqué dans le document qui est associé, et ensuite on essaiera donc de développer deux axes de compréhension, donc c'est le grand 2 et le grand 3, et donc voilà, c'est un petit peu ça le but de ce soir, et n'hésitez surtout pas à intervenir, à poser des questions de compréhension ou d'élargissement, ça ne fera qu'enrichir l'exposé. Donc je reprends donc les versets. Alors j'ai fait exprès de reprendre les versets par un verset qui est un petit peu en amont du texte qui nous intéresse et qui est tout à fait révélateur du contexte. Donc on a ce verset, vous le voyez ici, marqué en premier, « Elé Béné Shem, voici les enfants de Shem, Shem étant donc un des trois fils de Noar, et ce qui est dit pour Shem est dit aussi bien pour Ram et pour Yéphet. » Donc les trois enfants, on va énumérer dans la Torah le nom de chacun des descendants, ainsi que leur disposition géographique. Oui, chacun des enfants va prendre une terre qu'il va occuper. Et donc le verset précise, « Elé Béné Shem, voici les enfants de Shem, les Mishperotam, donc ils sont organisés, ils sont placés en fonction de leur famille, oui, donc il y a les descendants de Shem, de Ham, de Yéphet. L'île Shonotam, le verset précise qu'il y a donc une répartition en fonction de leur langue, littéralement la Shon c'est la langue. Be'artzotam, dans leur terre, les Goyéhem, en fonction de leur nation. Et je voulais juste donc, on voulait juste donc montrer le point suivant, c'est qu'il y a à la base d'abord une famille qui parle une langue propre à cette famille et qui va occuper un territoire qui s'appelle Eretz, oui, la terre, et de là, il me semble que germe une sorte de nation. Vous avez entendu la nation, le peuple, Goy, donc c'est soit nation, soit un peuple. Alors le Goy et donc la nation naît, si vous voulez, de plusieurs ingrédients. D'abord une famille qui a une même langue et qui partagent une même terre, et c'est cette synergie de ces trois éléments, je pense, qui crée ce qu'on appelle la nation. En tout cas, force est de constater que le monde est occupé par divers peuplades qui se caractérisent toutes, pas simplement par un territoire géographique, mais par une langue et par une sorte d'esprit de la peuplade qui est donc lié à la fois la langue, à la fois la terre, et donc qui constitue la nation. Et Donc j'attaque donc maintenant le passage qui nous intéresse. Et le verset donc commence ici, donc je vais traduire de façon la plus littérale possible au début. « Vaïi, et ce fut Kolaharet, toute la terre, ouais. Safa Echat, une seule, littéralement, lèvre. Safa, c'est la lèvre. Safa, Tamishkan, c'est un petit peu le flanc. Donc c'est ce qui recouvre la langue. Udvarim Achadim, littéralement. Alors, Dvarim Achadim, soit des paroles, soit des choses. Achadim, uni, seul. On verra, il y a plusieurs, c'est un petit peu tout l'enjeu de cette soirée, de comprendre qu'est-ce qu'on entend par Achadim. Donc on va le laisser, si vous voulez, comme une sorte de boîte noire. Dvarim Achadim. Je continue. Vaï Benosam Mikedem, et voici que en voyageant Mikedem, depuis le sud, pardon, depuis l'est, excusez-moi, Vaim Tseubika, ils ont trouvé une vallée, Be'eret Shinar, dans la terre de Shinar, Vaim Zvusham, ils se sont assis, ils se sont établis là-bas. Vaim Ruish El Re'eu, chaque individu a dit à son prochain, Hava Nilbena Levenim, venons, Nilbena, alors, constituant les vénimes des briques, Nilbena, on va, pardon, pas constituer, mais on va, Liboun, on va brûler des briques, Venisrefa, l'Isrefa, et on va les brûler, l'Isrefa, dans une sorte de four, Vateilahem, à l'Evena, et donc le résultat de cette opération va amener, Vateilahem, à l'Evena, les Aven, la brique est devenue une pierre, Vea Chemar, le bitume, Ayala Emle, la chomère, est devenue une sorte d'enduit. Donc ça, c'est leur production. Verset numéro 4, Vayomru Hava, donc deuxième entreprise, Haba Nivne Lanu Ir, construisons-nous une ville au Migdal et une tour vers Rosho Bashamaim, dont la tête de cette tour serait dans les cieux. Vena selanu shem, et faisons-nous un shem, littéralement un nom. Pen nafutz al pene kol haaretz, de peur que nous soyons dispersés al pene kol haaretz à travers toute la terre. Entre parenthèses, tous les points et les points virgules et les virgules sont une erreur, si vous voulez. Donc j'ai récupéré un document d'un site internet et j'ai du mal en fait à enlever les virgules, mais en fait les virgules n'existent pas, donc il faut les oublier. Verset numéro 4, verset numéro 5, Vayered Hashem Lirot et Ta'ir et Amigdal, Hashem descend pour voir la ville et la tour qu'ils ont construite, Bene Adam, les fils de l'homme. Vayomer Hashem s'exprime en disant, En Amechad, voici un peuple unique, les Safa Arat, et une seule langue, les Kulam, pour tout le monde. Vezé, Hachidam la Asot, et ils ont commencé à faire, Ve'ata, donc c'est ce qu'ils ont commencé à faire, Ve'ata maintenant, Lo Yibatser Me'em, je ne leur permettrai pas d'achever cette construction, Kol Hashé Yazmou la Asot, tout ce qu'ils ont projeté de faire. Haba Nerda, allons descendant Venavlasham, Fatam, et on va mélanger leur langue, Asherlo Yishmeu, de façon à ce que un individu ne pourra pas entendre Sfat Re'eu, la langue de son prochain. Vayafet Hashem Otamisham, Hashem les a donc dispersés de là-bas. Alpene Kolaret sur la surface du globe, sur toute la surface de la terre, Vayar Delou, Livnotaïr, et donc ils ont fini leur projet de construction de ville, le projet s'est achevé de construction de la ville. Alken Karachema Bavel, c'est pour ça qu'on appelle leur nom Bavel, ouais. Kisham Balal Hashem, donc une sorte de jeu de mots, Bavel, parce que c'est là-bas que Hashem a Balal, a mélangé Sfat Kolaret, la langue de toute la terre, au Misham et Fitzam Hashem, et c'est de là-bas que Hashem les a, éparpillés, à peine qu'on arrête sur la surface de la terre. Donc, voici donc une traduction littérale qui vaut ce qu'elle vaut. En tout cas, je voulais donc de cette traduction retenir donc sept points essentiels qui vont être pour nous la trame de réflexion. Oui, donc ce sont un petit peu les éléments, les remarques de les remarques. Donc on n'est plus dans le sens littéral, on est dans les remarques par rapport à ce sens littéral. Donc la première des remarques donc qu'on peut faire, c'est qu'il existe un contexte général qui est que de façon presque universelle, tout le monde s'organise à travers des familles, des langues et des terres, et donc ça permet d'émerger une nation comme on avait dit au début. Or, ce qui est assez frappant, c'est que le verset commence en disant « Toute la terre ne parlait qu'une seule langue. Ouais. » Safa Echat. Une seule langue. Et a priori, on est en opposition, en contradiction avec une pléthore de versets qui précédaient donc ce passage, ouais, dans lequel on exhibait de façon tout à fait claire une répartition de la population en fonction des familles, des langues, des divers langues, et donc des nations qui ont germé de là. Alors, on a trois possibilités, si vous voulez, pour expliquer. Donc, et apparemment, on dirait que dans le verset, c'est volontairement mis en opposition. Ouais, c'est-à-dire que dans un contexte, lorsqu'on lit tout le chapitre numéro 10, bah, sans arrêt, on entend des noms très très bizarroïdes, avec des organisations dans le territoire, donc on est habitué à une sorte de refrain dans la tête dans lequel ben, les gens ont des langues différentes, ont des terres différentes, sont des peuples différents, et puis d'un coup, comme dans un cheveu, comme un cheveu dans la soupe, alors on a d'un coup une sorte d'unité, ouais, une seule langue, Udvarim Achadim, et on traduira des choses uniques, unifiées, peu importe, on verra la traduction. Donc ça fait un petit peu, c'est assez brutal dans le verset. Le passage du chapitre 10 au chapitre 11 est brutal. Et donc pour rendre compte de cette contradiction apparente, même plus qu'apparente brutale, alors on a trouvé donc avec Moshe trois possibilités. Soit ce passage du chapitre 11 serait anachronique, c'est-à-dire que, ou plutôt, inversement, oui, les deux, donc le chapitre 10 qui parle de la disposition parmi les territoires et avec des langues différentes, c'est un passage qui est après l'intervention d'Hachem de mélanger toutes les langues. Ouais, donc possibilité. Mais cela dit, on n'a vu aucun Rishon, aucun maître parmi les maîtres du Moyen-Âge qui évoque cette idée, qui pose même cette question. Bon, on n'a pas vu tout le monde, mais en tout cas pour ce qu'on a vu, il n'y a aucun indice qui nous dit qu'il y a une notion d'anachronique. Ouais, et lorsqu'il y a un anachronisme, en général, il est signifié, au moins par Rashi, notamment un exemple sur l'expérience du serpent un peu avant. Ouais, donc il va dire que l'expérience du serpent qui va tenter Ravana est anachronique dans le texte. Donc, a priori, il n'y a pas un problème d'anachronisme. Deuxième possibilité qui est développée par Rav Hirsch, c'est de dire, et donc qui rendrait compte de cette différence entre Safa, Echat et le Lachon. Donc Safa, comme je l'avais précisé au début, littéralement c'est une lèvre, et Lachon c'est la langue. Il y a un distinguo entre les langues et les lèvres, qui serait le suivant. La langue aurait, le lachon aurait, ferait office de dialecte. Donc toutes les décompositions auxquelles on a assisté dans le chapitre 10 seraient en fait des personnes qui se trouvent des contrées à droite à gauche, se développent là-bas en fonction d'un dialecte. Mais il n'empêche que chacune de ces personnes a quand même un point de référence en termes de langue qui s'appelle le Safa Acha. Donc on a un passage du Lachon qui est la langue, à Safa la lèvre. La lèvre, eh ben, elle est, en tout cas la langue, elle est, pas la langue, mais en tout cas on passe de, si vous voulez, de façon plus claire, du dialecte à la langue. Beaucoup de personnes parlent des dialectes différents, comme le patois, comme le corse, comme le provençal, mais il n'empêche que ces mêmes personnes sont capables de parler de façon parfaite le français. Donc il y a juste, si vous voulez, une sorte de langue qui va germer dans une population, mais qui pour autant ne met pas en contradiction avec la langue nationale. C'est un petit peu ça. Donc le verset dit, il colarette safarad. Au niveau des dialectes, c'est différent. Chacun a son dialecte propre. En revanche, au niveau de la langue, il existe une langue nationale, une langue internationale. Ça, ce serait donc la possibilité développée par Rich. Et une troisième possibilité auquel on a pensé, c'est que lorsque le verset dit « Voici que toute la terre parlait une seule langue » et en fait on s'appuie, si vous voulez, sur le fait que le « onkleos », qui est la traduction en araméen du « Lachon HaKodesh » de la Torah, traduit ça va par « Lachon ». Oui, sous-entendu, il ne respecte pas le distinguo qui a été proposé par Rav Hirsch. Sous-entendu, ça va, c'est la langue. Donc les mêmes langues auxquelles on assistait dans le chapitre 10, ouais, ben, c'est d'un coup, il existe une seule langue pour toute la terre. Et donc, si je dis ça, je ne peux pas me reporter en disant ben, il y a dialecte et langue. Non, non. Il y a une seule langue pour toute la terre. Alors qu'est-ce que je fais avec toutes les autres langues qui étaient parlées à droite et à gauche ? La réponse, il est possible que ce verset est en train de mettre en exergue le fait que les gens de cette population du Dor HaFlaga, donc Nimrod et tous ses copains, ouais, avaient une illusion d'une langue unique. Oui, c'est pas qu'il y avait une langue unique dans le monde, mais en tout cas, ils vivent dans cette illusion que Kolaret Safarad, ils avaient l'impression, ou ils donnent cette impression, que la langue qu'ils parlent, c'est la langue de tout le monde. Donc voilà ici trois possibilités au niveau du sens littéral, pour essayer de rendre compte de ce changement brutal entre le chapitre 10 et le chapitre 11.
Pour dire que ce manque leur a été imposé, on a imposé le russe à toutes les républiques.
Par Nimrod ou par qui?
Par Nimrod, oui. Par le maître dominant.
D'accord.
Enfin, le roi dominant, c'est moi, Nimrod. C'est étonnant que tu choisis la côté, je pense.
Oui, alors, petite précision. Rav Boyer, la semaine dernière, a donc fait un est parti dans la direction de ce qui est marqué dans Rashi, que c'est Lachon HaKodesh, la Safa Achad en question. On a décidé de, pour l'instant, ne pas utiliser cette information. On va dire que c'est une langue commune, sans forcément rentrer dans Lachon HaKodesh. Maintenant, Rav Gonshed, vous proposez donc de dire que c'est une langue qui a été imposée et dont le verset ne mentionne aucune trace de cette imposition.
C'est le Maïli, tout à coup.
Pardon ?
On s'est trouvé tout à coup avec une Maïli. À ce moment-là, auparavant, ce n'était pas comme ça. Donc elle n'existait pas, cette langue, comme une langue commune.
Ah.
Imaginez qu'elle a été imposée.
D'accord, c'est ça. Donc, très bien. Donc, quatrième possibilité. Vous avez dit, donc une sorte de... Très bien. Très bien, on verra comment cette possibilité peut bien rentrer la première direction qu'on a voulu choisir, dans le premier axe qu'on a voulu choisir. Donc je retiens. Oudvaré Machedi, maintenant. Troisième remarque, donc la première remarque, c'était la contradiction entre le contexte général et cette apparition d'une langue nouvelle, ouais, qui est une langue universelle, soit par illusion, soit par imposition. Ensuite, donc, on a choisi, donc, le troisième point que j'ai marqué, c'est qu'on a choisi délibérément de dire que Safa Echad, oui, c'est basé sur ce qu'a dit Onkelos, donc ce n'est pas un dialecte, mais c'est une langue. Quatrième point, avant de rentrer vraiment dans l'explication de ce que veut dire Dvarim Achadim, ouais, donc, et la terre avait une seule langue, ou Dvarim Achadim. Oui, des paroles Achadim. Alors, on ne sait pas, on n'arrive pas pour l'instant à traduire c'est quoi Achadim, en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce qui intéresse le constat de la Torah n'est pas le contenu de ces paroles, mais le fait qu'elles soient Achadim. Ouais. Qu'elles soient, comment dire, alors on va dire unique, on va tout de suite rentrer, si vous voulez, dans Rashi, qui amène trois explications de ce Achadim. Donc, Achadim et trois explications qui sont péjoratives, ouais, qui seraient un petit peu la source de tous les mots, enfin des mots qui vont être proférés plus tard. Alors, la première des explications qui est donnée par Rashi, c'est que Dvarim Achadim, c'est l'aspect Echad, uni, c'est-à-dire qu'ils étaient unis, Baoub et Tsa'achat, ils sont venus avec un seul et même dessein. Vamrou, Lokol et Menouch, Ibor et Kola et Yonim. Oui, ce n'est pas normal que Hachem se réserve tous les mondes supérieurs. Na'ale la rakia, nous allons monter dans les cieux, venasse imo milchame, nous allons faire une guerre à Dieu. Donc Rashi amène donc un midrash, de toute façon c'est un midrash rabbin, ouais, et dans lequel il voit que Aradim, ça met en exergue l'unité pour créer une guerre contre Dieu. Donc c'est le premier sens qui est donné par Rashi. Davar acher, al yechido shel olam, sur l'unique du monde. Et là, force est de réfléchir en quoi ce deuxième commentaire diffère du premier. A priori, dans les deux cas, on est dans une opposition à l'Yechido Shalom, c'est l'unique du monde. A priori, c'est Hachem. Alors, il y a deux éléments de distinction entre le premier sens et le deuxième. Donc, je répète, le premier sens, c'était une sorte de déclaration des hommes, de dire c'est pas normal qu'Hachem règne dans les mondes supérieurs, sous-entendu on a déjà réussi à régner dans le monde inférieur, maintenant c'est pas normal qu'Hachem se réserve une part du gâteau dans le monde supérieur, on va aller lui faire la guerre. Oui. Là je vais même dire que on va mettre sur cette tour une épée pour qu'elle ait une fonction de faire la guerre à Hachem. Maintenant la deuxième chose, c'est Dvarim achadim al yechido shel olam. Ils s'en prennent à l'unique du monde. Mais on ne dit pas en quoi ils s'en prennent, comment ils s'en prennent. Ouais, on pourrait très bien intégrer la deuxième explication de Rashi dans la première. Ils s'en prennent comment? En faisant la guerre. Donc, a priori, il y a une volonté chez Rashi, donc, conformément au Midrash, d'amener une autre idée. Alors, il y a deux éléments de différence qu'on pourrait trouver ici. Je ne sais pas si c'est ce Midrash qui parle, mais en tout cas, il y a un Midrash qui dit que il y a. Dans leur attaque, il y a une double attaque. Une attaque qui est dirigée vers Yechido Shel Olam, qui s'appelle Hachem, mais il y a aussi une autre personne qu'on appelle Yachid, c'est Avraham Avinu. Oui, Avraham Avinu s'appelle l'unique sur la terre, Yachid Ba'aretz. Ouais. Et donc, Yechido Shel Olam peut être tantôt Hachem, tantôt Avraham. Les deux, ils ont, si vous voulez, une dimension d'unicité. Le Midrash ramène lorsque Avraham va être jeté dans la fournaise ardente. Les anges, un ange va se lever pour venir proposer à Hachem de rafraîchir la fournaise ardente, donc à Ur Kasdim, et Hachem refuse l'intervention d'un ange en disant je suis Maou Yechido Baolam, de la même façon que lui il est Yachid dans ce monde. Avraham a une dimension d'unicité dans ce monde, alors ce n'est pas normal qu'il soit mis dans les mains de quelqu'un qui n'est pas unique comme un ange. Donc il n'y a que Hachem lui-même qui peut venir traiter Avraham. Donc c'est Avraham, Hachem lui-même qui est venu sauver Avraham. Sous-entendu, il y a une sorte de mise en parallèle entre la dimension unique de Avraham et la dimension unique de Hachem. Et il est donc possible que lorsque Rashi amène Davar Acher, une autre explication, il veut intégrer aussi le fait qu'il n'y a pas simplement un débat frontal contre Dieu, une volonté de créer une guerre contre Dieu, il y a aussi une possibilité de toute forme de représentant de l'unicité de Dieu, ouais, dans le personnage d'Avraham. Donc, possibilité que Rashi amène ça maintenant. Troisième explication de Rashi, Davar Acher, Vedvarim Achadim, ouais, dans certaines versions, Dvarim Khadim, Khad, ouais, veut dire coupant, tranchant. Ouais. Ça veut dire que Dvarim Achadim, ce sont des paroles qui tranchent. Ça veut dire qu'à partir d'une langue commune, d'une même langue, ouais, qui pourrait a priori faire l'office de communauté de sens, de communauté de paroles, de liens, de ciment social, on débouche sur Dvarim Khadim, des choses qui tranchent, qui créent, si vous voulez, une dichotomie, qui crée une fracture, à la fois, alors on va tout de suite de quelle fracture il s'agit, Amrou Achad l'élève et Tarnou Shanim, une fois tous les 1656 ans, Arakamit Botet, les cieux, le firmament, explose, ouais. Keshem chez Asab, il met à Maboul, de la même façon qui s'est passé pendant l'époque de Noar, à l'époque du déluge. Bon, venaselos samchut, on va faire une sorte de pilier pour éviter que, une nouvelle fois, le ciel. Alors, le ciel dans combien de temps? Dans à peu près, facilement, on est dans 1400 ans, si on a une période de 1656 ans, ouais, qui est amenée par eux. Donc, eux, ils sont en train de prévoir de façon extrêmement futuriste que dans 1000, je ne sais pas, on est à combien d'années, à peu près peut-être un ou deux siècles de Noar, ouais, puisqu'on a énuméré toutes les, tous les enfants de Noar, donc peut-être 3 ou 4 siècles, peu importe. En tout cas, il y a une portée à peu près de 1000 ans. C'est une prévision pour 1000 ans, de façon à ce que les cieux ne puissent pas s'écrouler. Ouais, donc, c'est la volonté qu'ils font. Et quelque part, il faut comprendre ici en quoi le fait de prévoir, de se prendre une police d'assurance sur 1000 ans, par rapport à l'effondrement du monde, en quoi il y a ici un constat négatif, péjoratif, qui serait à mettre en relation avec les deux constats précédents. Donc je répète, les deux explications précédentes, je répète les trois explications de Rashi. La première, c'est de dire que il y a une sorte de volonté de leadership aussi dans les mondes supérieurs. C'est pas normal qu'Hachem se réserve, ouais, le monde supérieur. On va monter là-haut et lui faire la guerre. Donc c'est une véritable attaque frontale. Deuxième possibilité, c'est peut-être moins frontal, puisqu'on cherche la dimension unique de Dieu et pas Dieu lui-même à exploiter cette piste. Troisième possibilité, c'est donc de créer une tour pour, quelque part, alors, d'une certaine façon, faire fi de la promesse qu'Hachem avait donnée à l'issue du déluge, puisqu'on sait qu'à l'issue du déluge, Hachem a promis et a même contracté une alliance avec Noar. Brite les deux rotes Olam, une alliance qui va concerner toutes les générations de façon éternelle. Oui. Une alliance avec Hachem et Noar qui fait qu'en fait il n'y aura plus jamais de déluge. Ouais. Et donc, quelque part, ce qu'on pourrait voir ici comme opposition à Dieu, oui, quelque chose. Alors, parce que Radim veut dire tranchant, ouais. En rupture avec Dieu, en fracture avec Dieu, ce serait donc en fait d'aller à rebours de la promesse de Dieu. Bon, il y a une promesse qui a été clairement exprimée, et donc cette génération va aller à rebours. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a de, comment dire, de quel est le problème de ne pas s'appuyer sur la promesse de Dieu. Qu'est-ce qu'on touche ici? C'est-à-dire que on a l'impression, en disant ce Rashi, qu'il y a les deux explications sont assez nettes. Il y a une véritable combat contre Dieu. Et là, c'est juste par rapport à la promesse de Dieu. On n'y croit pas. On a besoin de se rassurer peut-être, ouais, ou pas nous-mêmes, en tout cas, assurer pour la postérité un certain maintien du renouvellement du monde. Et donc, il faut créer tout de suite une tour qui va servir de pilier assez dur, pour éviter que le ciel s'écroule. C'est-à-dire qu'on a du mal. On a beaucoup de mal un peu partout, mais en tout cas, j'allais dire encore plus ici, à cerner quelle est l'outrecuidance de cette génération. C'est-à-dire que si c'est juste ça, bon, alors ça va. Les personnes qui ont des problèmes de Emouna, qui ont des problèmes. On ne voit pas ici un combat, une véritable attaque frontale ou bien indirecte, mais bon, voilà, c'est un petit peu l'interrogation qu'on peut se poser. Est-ce qu'on est clair jusque-là? Oui, c'est des questions, n'hésitez pas. La troisième, je répète ce que dit Rashi. Dvarim achadim, oui, ce sont des choses qui sont coupantes, chad, ouais, donc c'est coupant. Et c'est quoi l'idée? C'est quelque part de couper avec la promesse de Dieu. Il y a une promesse qui nous garantit une pérennité du monde. Brite les Dorot Olam, une alliance qui va traverser toutes les générations. Et là, il y a une sorte de rupture de cette alliance. Donc ça coupe. Ça coupe quelque part par rapport à la promesse de Dieu, tout simplement. Ouais. Et là-dessus, je pose une question. Je dis, bon, bah, soit. Ouais, mais pourquoi, en quoi c'est quelque chose de tellement, qui est pointé en tout cas du doigt dans cette énumération dans ce diagnostic de Rashi, et qui est marqué dans la Torah, Dvarim Chadim, j'ai entendu, c'est ça le problème, a priori. Ouais, c'est par là que, c'est là que le bât blesse. En quoi cette troisième explication, elle mérite une telle place? Cinquième point, on voit que cette génération, ce groupe de personnes mené par Nimrod, en tout cas, la population, elle a deux types de production. Oui, donc, c'est pas simplement qu'ils ont une même langue et des Svarim Achadim dont on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Ils ont deux types de production. Une première production extrêmement triviale, ouais, qui est donc le fait que, à partir de briques, on va faire des pierres, et à partir de bitume, on va faire un enduit, ça c'est la première production. Et je rajoute un midrash qui dit qu'en fait ils n'ont pas simplement ils n'ont pas simplement fait cette opération, mais qui plus est, ils ont eu beaucoup de réussite par rapport à ça. Ça veut dire qu'ils avaient une sorte de production avec une grande bracha, avec une grande abondance, puisque il y avait un phénomène de démultiplication. Voilà, ils mettaient une brique, ils sortaient deux pierres. Ouais, comme une sorte de division cellulaire. Oui, mais là, c'était donc il y avait une grande réussite par rapport à ça. Donc apparemment, cette première production est probante. Ouais, c'est une production qui marche. Alors, on passe à la deuxième production qui est beaucoup plus gigantesque. C'est le projet donc d'une ville et d'une tour atteignant le ciel. Ouais, et dont le but est marqué ici dans la Torah. Vena la Selena Oshem, c'est que tout le but, a priori, de cette tour, donc on a une ville qui englobe, enfin qui contient à l'intérieur d'elle une tour, cette fameuse tour de Babel, dont le but, dont l'idée, c'est afin de se faire un nom. Vena Selena Oshem, on va se faire un nom, alors pour l'instant on va traduire par un renom. Oui, c'est-à-dire qu'en général la fonction d'une tour, c'est une sorte de drapeau géant, de totem, je ne sais pas, qui est là pour marquer une sorte de territoire, ouais, bien bien vigoureux. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est, alors si tu as besoin d'avoir une sorte d'élément central, alors quelle est la nécessité qu'il monte jusqu'au ciel ? Un petit peu pharaonique comme projet. On peut très très bien faire une sorte de tour de Pise, ouais, une tour Eiffel, peu importe, c'est-à-dire que c'est un monument suffisamment probant pour pouvoir avoir la fonction de référence. Oui, c'est-à-dire que l'insistance que la Torah a de dire « Verosho magi'a a shamaima » deux secondes, je prends le verset. Verosho bashamaim, pardon, pas magi'a. Verosho bashamaim, et sa tête, donc la tête de la tour se trouve bashamaim. Il faut essayer de rendre compte de ça. C'est-à-dire qu'on aurait pu très bien imaginer que leur besoin de se faire un renom, une sorte de référence, s'arrête à... Pas besoin d'aller jusqu'au ciel, quoi. Une grande tour suffit. Oui. Peine à foutre, c'est donc tout ça, c'est motivé a priori par une angoisse. La peur, n'a foutre, qu'on soit totalement éparpillé sur la terre. Donc on a, je répète, une langue commune avec Dvarim Achadim, on ne sait pas encore ce que c'est, qui va d'abord se manifester par une première production extrêmement triviale, et après une production beaucoup plus pharaonique, quelque chose de beaucoup plus grandiose, avec une ville entière, avec une tour, et dont le but de la tour est là pour éviter toute forme de dispersion. On a créé une cohésion dans une sorte de peuplade, et cette cohésion est tellement importante qu'il est nécessaire, ouais, d'utiliser une tour pour faire perdurer ce ciment de cohésion. Ouais, c'est un petit peu ça, comme ça qu'on pourrait lire le texte. Et enfin, donc, sixième point dans le plan, Hachem va intervenir. Ouais, il descend, donc c'est un anthropomorphisme, il descend pour voir la ville et le Migdal, donc il y a deux choses. Il n'est pas venu voir de façon globale. Il voit de façon détaillée, il voit deux choses. La Ir, la ville, et le Migdal et la tour. Asher Banu Bene Adam, les enfants de Adam, de l'homme. Et à ce moment-là, donc, on a dans le verset numéro 6, Vemer Hashem en amechad vesafa achad. Alors, ce qui est tout à fait intéressant ici, c'est que Hashem va pointer du doigt, va stigmatiser le problème. Et ce qui est tout à fait étrange, c'est que la façon dont Hashem a de stigmatiser le problème, il est différent du constat de départ. Le constat de départ était Safa Achad, une seule langue, et Dvarim Achadim, des choses unies, unifiantes, peu importe. Et là, ce que Hachem pointe du doigt n'est plus les Dvarim Achadim, mais Am Echad, un peuple unique. Sous-entendu, on a ici trois notions. On a un seul un langage unique, on a une seule langue, et une Dvarim Achadim et des paroles uniques. Ça, c'était le constat de départ. Mais à l'issue de la double construction qui sont les pierres qui vont permettre l'édification de cette tour, donc une fois qu'on arrive au produit fini qui s'appelle la tour et la ville, alors à partir de ce moment-là, Hachem va justifier, comment dire, sa décision de tout faire avorter par le fait que c'est un Echad, un peuple unique, Vesafa Echad, et une seule langue. Donc il y a un point commun avec le constat de départ, c'était Safa Echad, mais en revanche, il y a un distinguo. C'est qu'on est passé de Dvarim Achadim à Am Echad. C'est le premier distinguo. Deuxième chose dont il faudra rendre compte, c'est l'ordre. Le constat de départ, c'était Safa Achat, ou Dvarim Achadim, donc une seule langue et des choses unifiées, ou bien qui servent de rupture, peu importe comment on va traduire. Et là, du coup, on a l'impression que Hachem remonte en amont de Safa Achat. C'est-à-dire qu'en amont de la langue unique, il y a un peuple unique, Am Echad, un peuple unique. Ve Safa Echad, qu'on retrouve, et c'est ça un petit peu qui va être le justificatif de l'intervention d'Hachem, qui va être la dissipation des langues. Voilà donc, si vous voulez, en résumé, donc est-ce qu'on est clair par rapport à tous ces points, et toutes ces remarques de sens littéral doivent ensuite, si vous voulez, prendre un sens en fonction des deux pistes qu'on vous propose ce soir.
Oui. J'aurais juste besoin de savoir comment vous faites l'articulation avec l'épisode précédent, si on peut dire, qui était qu'au fils de Noar, il était dit de se disperser sur la terre, de la remplir, et en fait d'avoir une grande diversité justement de langage, de façon d'exprimer l'ordre divin, quoi, en gros, qui leur a été donné juste après l'histoire de l'arche. Donc, on a ça, et là, ce qui paraît effectivement surprenant, c'est qu'on dirait que là-dessus, ils ont peur, ils prennent le contre-pied exact, parce que, peine à foutre, ça finit pour leur arrêt, quoi. On dirait qu'ils veulent prendre absolument le contre-pied de ce qu'avait été l'ordre divin. Ils ont eu crainte. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on explique l'articulation de...
Alors, effectivement, c'est peut-être un élément de réponse, votre question, de dire que puisque leur peine, nafoutz, la peur d'être dispersé quelque part, ça va à rebours de la volonté d'Hachem de peupler l'humanité avec toutes les dialectes possibles, avec toutes les... Donc, puisque ce qui les motivait pour construire cette tour, c'était avant tout la peur d'être, comment dire, dispersé parmi les nations, donc ils ont voulu aller au rebours de ça. Donc Hachem dit, ben justement, tu as voulu quoi, créer un seul peuple? Moi je veux, c'est exactement ce que je veux pas.
Non, je vois pas en quoi c'est un remède contre leur peur.
Pardon?
Je vois pas en quoi c'est un remède contre leur peur d'être dispersé contre une tour. Je vois pas bien le... En quoi ça alors, peut les guérir, les disperser, quoi. Je veux dire, c'est de construire une tour, en quoi ça...
Alors, c'est un élément de référence. Ouais. On est la peuplade de la tour. On se définit par étant comme étant les gens de la tour Eiffel. C'est un projet commun. C'est-à-dire qu'on a quelque chose en commun, ouais, qui s'appelle plus qu'une langue en commun. Qui s'appelle une tour, donc un édifice gigantesque. Ouais. Et donc, quelque part, puisque je me réfère à ça, alors à partir de là, j'ai aucune raison d'aller trouver une autre contrée, c'est-à-dire que et même si toutefois je m'égare, j'aurai toujours un point de référence en regardant l'horizon où je suis parti. Donc c'est un point qui me permet de ne pas me perdre, mais qui plus est surtout de me référencer. C'est un repère, ouais, c'est le principe du repère.
Mais une référence en soi, mais c'est-à-dire c'est endogène comme développement.
C'est-à-dire
le la Amechad. C'est une référence, mais c'est eux qui la font.
Oui, c'est une logique, oui. C'est pas une logique, c'est pas une référence, effectivement, normative. Oui, c'est pas donc un concept qui va être importé en fonction d'une conscience universelle. C'est inhérent à leur peuplade. Le peuple a sécrété une production qui s'est avérée avec une énorme réussite, puisque partout où ils mettaient la main, ça marchait, ouais, ça fonctionne. Et donc, pour eux, ça leur suffit. C'est un élément de référence suffisant pour, quelque part, entériner, pérenniser ce peuple. Ouais. Et qui n'aura... qui s'est prémuni contre toute forme d'assimilation à quelque chose d'autre. Ouais. Et donc, à la limite, ce serait donc un élément de réponse, pennafouts, ils ont eu peur de la dispersion, donc ils sont regroupés, ils font un, il y a une unicité. Ah ben justement, Hachem me dit, mais justement, c'est ça qui me gêne. Ouais, c'est ce que Hachem met en exergue, c'est justement le principe de l'unicité mesquée. Et c'est là, il faut quand même le préciser, tout à fait paradoxal avec l'esprit de toutes les catastrophes depuis le début de la création. Moi, je rappelle que la création du monde, enfin de l'humanité, commence avec un fratricide, une sorte de meurtre de religion entre Caïn et Abel, donc il y a un vrai problème d'union entre deux frères. Ensuite, la génération, et c'est ce qui est extraordinaire, c'est que Rashi va le préciser, la génération du déluge, ouais, péché par manque de solidarité, par manque de ciment social. Et donc Rashi, en fin de parcours, va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait un problème ici, qui s'appelle Amechad, on n'a pas réussi encore à analyser le problème, mais pourquoi Hachem n'a pas utilisé les bonnes et vieilles méthodes d'antan, qui s'appelle le Maboul, qui s'appelle, qui s'appelle le déluge? Alors Rashi ne répond pas parce qu'il y avait une promesse. Il fait fi de la promesse, Rashi. Il dit, la raison pour laquelle Hachem n'a pas utilisé la bonne et vieille méthode du déluge, c'est qu'ils avaient quand même le mérite d'être unis. Donc, entendu, pour Rashi, ouais, qui vient essayer d'analyser où se trouve le problème, eh ben, en tout cas, c'est gênant de dire que c'est Amechad. Oui, Amechad, au contraire, est un point positif. Mais paradoxalement, ce qui est stigmatisé ici par Hachem, par le verset, c'est qu'apparemment, c'est ça le problème, parce que c'est un des éléments qui change. Hachem n'a pas stigmatisé Dvarim Achadim. Or, Dvarim Achadim est connoté de la façon la plus péjorative possible par Rashi, avec trois directions. Ouais, donc, il y a ici une sorte de paradoxe incroyable, qui est que Amechad, ouais, c'est ce que dit le verset, ça paraît être le problème, et vous proposez une piste de dire, bah, parce que finalement, ils vont à rebours de l'esprit d'être de Dieu, mais Rashi nous dit, mais c'est magnifique qu'ils soient Amechad, parce que c'est ça qui va les sauver du déluge. Alors, je ne sais pas, je connais pas le Midrash. Donc, confirmation par Moshe, moi j'ai pas vu, mais Moshe, oui. Donc voilà, il y a une sorte de... Paradoxe tout à fait incroyable.
En fait, ils ont contesté l'essentiel. La génération de Barton. En fait, contesté l'essentiel, mais Rachid dit d'abord la Shalom. Donc, même s'ils ont contesté l'essentiel, ils ont péché plus que la génération de la. Ils ont mérité de ne pas se dire que.
Ils ont moins péché parce qu'il y avait Shalom. Voilà.
Donc, c'est un point positif. Donc, c'est un point positif. Oui, mais alors, extra, ça va bien dans le sens Dvarim Achadim, contre Dieu. Mais le verset ne dit pas ça. Oui, donc Rashi a amené donc une batterie de Midrashim. Oui, donc il y a une lecture midrashique au moins de dire que le problème se trouve dans Dvarim Achadim. Mais nous faisons remarquer que le verset pointe du doigt autre chose que Dvarim Achadim. Il ne parle même pas de Dvarim Achadim. N'a pris comme problème hen amechad ve safa achad. Ouais. Et le hen semble être une sorte de. Ben voilà, c'est ça le constat, c'est ça le problème. Il n'y a pas marqué afalpi, bien que. Ouais. Il n'y a pas marqué bien que c'était un peuple. Hen, c'est ça le problème. Ouais, c'est hen, voilà. Ouais, c'est, voilà c'est. Donc, ça, c'est un des points qu'il faudra donc bien.
Mais c'est pas le problème, pas de négativité. Le problème, c'est que l'oïva termine. De cette unité leur permet de faire
ce qu'ils veulent. Le constat est mis de Hen Amechan, ça veut dire l'Oïvater Menem. Et après, l'Oïvater, avec ces données-là, premièrement, cette unité leur a permis de commencer, et puis ils arriveront, ils font ce qu'ils veulent, ils arriveront à faire ce qu'ils veulent.
Mais c'était contre la volonté d'Hachem alors, cette unité.
Non, le Rav propose de dire, en fait, ils ont des bons ingrédients qui sont mal utilisés, c'est ça que vous voulez dire.
Oui,
ils ont des bonnes composantes qui sont très mal utilisées. Et donc, en fait...
C'est pas un problème. C'est-à-dire, puisqu'ils ont cette puissance en soi-même, cette puissance, elle n'est pas du tout négative. Ça dépend tout au service de quoi on la met.
Donc c'est le baiser à final.
Alors, si c'est comme ça.
Oui, il va te faire même, comme la chair, Yasmoulas. Tous leurs projets sont réalisables.
Mais alors.
C'est pas le baiser qui est le problème, c'est cela qu'ils ont commencé à faire.
Non. Le fait qu'ils soient Zéhélam, pourquoi ils ont pu entreprendre un truc comme ça? Parce qu'ils étaient unis.
Alors,
si vous avez dit qu'ils avaient procédé aussi par étapes et qu'ils avaient eu beaucoup de Hachara avant de faire leur tour,
oui.
Est-ce que de manière intuitive, ça ne peut pas pour eux être un encouragement de Hachem finalement puisque...
Ils ont vent en poupe.
Non, mais pourquoi Hachem n'aurait pas bloqué avant? Pourquoi ils ont eu de la Hachara et puis quand ils font le tour?
Alors, il y a une réussite au niveau des briques, qui était couronnée de succès. Maintenant, c'est au moment où on arrive au stade de la ville et de la truc que Hachem met le hola. Ouais, donc Hachem arrête à ce moment-là. Maintenant, il me semble que un élément de réponse à votre intervention, Rav Grandstein, c'est que pourquoi on a besoin, pourquoi le verset ne dirait pas directement, il descend, ouais, il n'y a pas besoin de préciser En Amechad, Vesafachad, les Koulam, Vezer, Kilam, la Sot, il n'y a qu'à dire Vezer, Kilam, la Sot, Vata, Loïba, Tsamehem.
Hachem constate, si on peut. Ils constatent. Ils sont parfaitement unis. Et donc, tout est possible. Tout leur est possible. Je vois comment ils ont pu commencer à faire ce qu'ils ont fait. Tout ça, c'est grâce à leur unité. Et donc, en plus, Hachem redit Nerda, Hava Nerda.
Mm-hmm.
On a l'impression qu'il y a ce Hava Nerda qui est une réponse à le. C'est le même texte que c'est le Hava. Que c'était dit entre Hava et Nivne.
Oui, oui, c'est un écho.
Hachem répond avec les mêmes mots. Mm-hmm. Retourne les mots. Hachem a fait la même chose avec Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu dans l'histoire de Korach, quand il a dit au vieux Korach, Dai, Dai la Hem, Hachem a dit Dai la Hem. Il y a des expressions qu'Hachem semble-t-il ne tolère pas. Il renvoie l'expression comme telle. Tu utilises cette expression-là, cela renvoie. Bon, ça c'est en passant.
Ouais.
Mais avant d'être là, on va redescendre. Navla, Sham, Satan. De telle sorte qu'il ne puisse pas réussir.
Mais c'était quoi le problème alors?
Le problème, c'était ce qui a été dit précédemment, c'est les Bari Machadim. C'est ce projet, qu'est-ce que c'est que cette ville qui a l'intention de combattre Hachem, etc. Et Hachem est allé voir comment se fait. Comment se fait-il qu'ils réussissent? Ils sont partis pour un projet de contester quoi y a pour Hachem. Et Hachem dit, ils ont l'air de réussir. Hachem a donné une force à l'unité dans le monde quand Hachem se plie au règne qu'il a. Hachem obéit lui-même à la Torah. Il obéit lui-même au règne qu'il a fixé.
Est-ce que c'est pas parce que c'est en contradiction avec ce qu'avait dit précédemment, c'est-à-dire que Hachem leur avait demandé de se disperser et ils se sont regroupés, donc est-ce que c'est pas pour ça? Est-ce que c'est pas parce qu'ils ont été contre l'ordre d'Hachem?
Dans ce cas-là, on n'aurait pas dû dire « Béata loi va de même ». On aurait dû dire simplement « Voilà, ils ont fait le contraire de ce que... ils se sont unis. » Si vous voulez, à la limite, je pourrais dire « L'union elle-même. » Est-ce que l'union en elle-même est un défaut? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'ils se sont unis tout en étant chacun dans... C'est le fait de ramener tout le monde au même endroit qui pose problème. Le fait qu'ils soient unis à Mechad, mais qu'ils seraient répartis partout, le clan Israël, s'il est uni, même s'il est dispersé, c'est parfait. Il n'y a pas de. Il y a une force plus grande quand on est uni, quand on est sur le. Parce qu'à cause d'Eretz Israël. Mais si Eretz Israël, c'est tout le monde entier, absolument aucune raison qu'on soit tous au même endroit. Il suffit d'être uni. On peut être uni à distance.
C'est-à-dire que là, c'est la ville et la tour.
Oui, le problème, c'est cette ville, cette tour, Mirador. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas, ils vont pas, personne ne pourra s'enfuir. Il y a un Mirador. Les gens seront attirés parce que c'est leur projet. On leur a fait un miroir. C'est le projet qui nous a unifiés, cette affaire-là. À la fois, ils ont pu le commencer parce qu'ils étaient unis, et plus ils avançaient, plus ils étaient unis, probablement. Et après, c'est un mirador. Personne ne pourra bouger. Le monde entier. Bon, alors, pour que le mirador fonctionne, il faut qu'ils soient tous rassemblés.
J'entends le.
Bon, c'est pas,
d'accord, j'entends le. D'accord. Alors, en attaque, si vous voulez, le grand 2, donc on va essayer de donner une première lecture de toute cette. Paracha, et rendre compte de tous les 7 points dont on a parlé. Le premier élément, oui, qu'on peut dire, qu'on propose, si vous voulez, que Vaï. Vaï kolaharet, safa achat, udvarim achadim, et donc toute la terre était, de façon presque par illusion, était. Ou bien par imposition, était une seule et même langue, ou Udvarim, Achadim. Alors, on propose donc une traduction qui serait Dvarim, des paroles unifiées. C'est-à-dire que, comme on le voit dans la suite de des versets, qu'est-ce que j'appelle en fait des paroles unifiées? C'est des paroles qui unifient surtout, qui sont consensuelles. Enfin, Achadim sont des paroles, ouais, des paroles qui, quelque part, permettent de créer une sorte de ciment dans la population.
Slogan,
exactement le mot que je voulais utiliser. Donc le slogan. Alors, vous avez tout type de slogan dans toutes les sociétés. Ouais, les sociétés sont toutes pleines de slogans, et même à la limite. On pourrait voir certaines, même dans le monde de la Torah, on pourrait fonctionner avec des sortes de d'idées, de paroles consensuelles. Ça peut être le Mashiach, ça peut être le monde repose sur trois choses, des choses en trois points rapides. Ouais, donc on s'attache à une sorte de slogan. Et ce slogan, donc en fait, il est à la limite. Je pourrais le voir comme étant une conséquence de Safa Achad. On parle tous la même langue. Alors, on peut, s'entendre plus facilement et donc créer un système de consensus. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que fonctionner dans un monde consensuel, ce que précise le verset, c'est que même les choses répondent à une unité. Et à ce moment-là, on ne serait pas obligé de dire que Dvarim, ce sont des paroles, mais ce sont aussi des choses. Les choses sont unifiées. Et donc, ce serait un petit peu l'illustration du verset numéro 3 qui dit que Ava venons Nil Benal et Vénim, on va brûler des briques, Vénisrefa, Lisrefa, on va les mettre donc dans le four, et de façon incroyable, va Tei la M à Levena les Aven, le Levena devient Aven, la brique devient pierre, et donc nous en français ça sonne pas, mais en tout cas ça résonne très très bien en hébreu. Sous-entendu, premièrement, ils ont une réussite. Ils ont donc une réussite d'abord au niveau de la production. Deuxième chose, on sent ici une certaine forme d'harmonie. Oui, ça veut dire que les noms, la chaîne Nofel, la chaîne, il y a une sorte de, comment dire, de proximité de son, ouais, qui rend la chose encore plus harmonieuse. Ça veut dire que on vit non seulement dans un monde consensuel, avec quelques grands slogans, mais qui plus est, les choses elles-mêmes se plient à une sorte de consensus, c'est pas un consensus, mais c'est une sorte de proximité. Il n'y a pas de choses nuancées. C'est-à-dire que la brique, les vénimes deviennent des évènes. Ça veut dire que même dans le mode de la production la plus charnelle, eh ben, il y a une sorte d'harmonie qui se dégage qui participe de l'idée du consensus. Il n'y a pas besoin de choses qui sont étoffées, pas besoin de choses nuancées. Ouais. Et paradoxalement, on n'a pas non plus ici la marque d'une production au niveau en soi, une production très neuve. C'est-à-dire que passer de la brique à la pierre, passer du bitume à l'enduit, il n'y a pas, si vous voulez, la marque d'un génie de la civilisation. En revanche, passer de la brique à la ville, oui, là, il y a quelque chose de beaucoup plus marquant au niveau du génie humain. Sous-entendu, le constat simple, ouais, qu'on vit dans un monde de consensus, de slogans, et que les choses, l'univers du charnel se plie quelque part à cette proximité des choses, ouais, sans génie, sans nuance, sans variation. Ça donne quelque part l'idée de dire que finalement tout fonctionne, c'est-à-dire que le consensus c'est même déployé dans la matière. Je ne sais pas si je suis clair par rapport à cette idée. Et c'est un petit peu ça qui est rendu compte par cette onomatopée, je ne sais pas comment on appelle ça en français, il y a une sorte de résonance, oui, que Even en Level, il y a une sorte de jeu de mots en permanence. Aban Even, c'est que c'est beau un monde qui est totalement uni, pas simplement uni au niveau des slogans, mais uni au niveau de la production. Ouais, c'est un véritable meilleur des mondes. Oui, mais le procédé de passage d'une brique à une pierre, c'est pas un miracle.
Non,
mais
une brique, c'est pas une pierre.
Certes, mais
une
c'est.
Si ça se trouve par terre, une brique, ça se trouve pas une brique.
Oui, alors, donc, il y a la marque.
Une brique devient une pierre, et quelque part, la physique, elle est un peu chamboulée, quoi. Je veux dire, c'est la pierre.
Ouais. C'est-à-dire que c'est.
Non, une brique, oui, mais pas une pierre. Il n'y avait pas un passage où, à un moment donné, un miracle. On disait qu'ils avaient choisi, presque par défi, un endroit où il n'y avait rien. Parce que normalement, la logique voudrait. Si on veut faire une construction, on va dans un champ où il y a des pierres. Ouais. Et là, il y a un commentaire qui
dit qu'ils
sont mis dans un endroit, ils sont mis dans un endroit où il n'y avait rien. Ouais. Et du coup, la bracha est encore plus forte parce qu'ils ont fait sortir des pierres de presque de n'importe quoi. C'est-à-dire ils auraient réussi avec n'importe quoi. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit qu'ils mettaient n'importe quoi dans le feu, de toute façon, ils sortaient une pierre. C'est comme si, en fait, ils se reposaient uniquement sur le génie humain, sur la force de l'effort humain, en fait, sans prendre appui sur quelque chose de naturel. Parce que si je veux construire une cabane, j'ai du bois, quoi. Je me sers de ce qui. Là, ils sont dans un endroit où il n'y avait rien, et du coup, ils ont tout créé par eux-mêmes.
Donc, tu veux aller dans le sens de l'intervention en disant qu'en fait, il y a, oui, quelque chose d'incroyablement novateur.
Surnaturel, novateur, parce qu'une brique, c'est pas une pierre. Je veux dire, c'est pas.
Alors.
Une pierre, c'est un minéral, c'est quelque chose qui existe dans la nature au moment de la création. Une brique, c'est une construction humaine par
Alors, sais, non, c'est pas forcément la brique, hein, c'est l'argile peut-être. Hein. On passe de l'argile à la pierre.
Mais même, là, je sais pas, d'un point de vue définition, une pierre, c'est pas de l'argile. Quoi. C'est,
Donc, ça peut en avoir. Mais le fait qu'à un moment donné, une brique, ça peut prendre l'origine d'une pierre. Ça peut devenir tellement.
Mais le fait que ce soit des qui soient débattus, il a elle.
Pour eux.
Ça veut dire quoi avant?
Et ce fut pour eux.
Élaboré, mais entièrement d'accord, on passe d'un produit brut à un produit élaboré. Mais ce qu'on voulait faire remarquer, c'est un produit élaboré qui n'est pas. On n'est pas.
Normalement, c'est un produit élaboré, mais ça se taille éventuellement. C'est un produit brut.
Non, mais ils étaient dans. Deux secondes. Ils étaient dans une vallée dans laquelle il n'y avait pas cette pierre. Il faut arriver à la. A priori, c'est présenté comme Rachi, par Rachi, comme étant le. On ne peut passer que de l'argile vers la pierre et pas l'inverse.
C'est l'œuvre, c'est comme de la pierre.
Ah, comme de la pierre, d'accord.
C'est comme si c'était de la pierre.
D'accord. C'est pas une pierre. Pardon ?
C'est pas dans le texte, c'est de la pierre.
Comme de la pierre. Ça veut dire qu'en fait.
C'est-à-dire que de leur subjectivité à eux,
oui.
C'est un statut de définitif. De, comme si c'était une construction éternelle, de leur point de vue à eux.
Dans d'accord, très bien.
Ça ne veut pas dire que ça l'est objectivement. Le
d'accord, très bien. Ok, donc très bien. Maintenant, à partir de ce moment-là, une fois qu'ils ont une réussite, donc on a dit sur deux points, il y a à la fois une harmonie sans grande nouveauté, qui plus est au niveau de leur production, ça marche. Alors deuxième étape de production, essayer de faire une tour. Alors on peut se poser la question, ils ont déjà un monde, pas qu'un langage, pas qu'un slogan consensuel, ils ont déjà une vie, enfin c'est une nature qui se plie à une certaine forme de consensus. Ouais, tout fonctionne, une sorte de meilleur des mondes. Quelle est à ce moment-là la nécessité de faire une tour? Alors, deux idées surviennent, et qui sont finalement marquées dans le verset, puisque la première des idées, c'est de dire, c'est bien de fonctionner dans un consensus, mais ça c'est le produit d'une civilisation, produit d'une réflexion, produit d'une dictature.
Tu veux continuer?
Produit donc d'une dictature, mais qui me dit que demain, confronté à une nouvelle civilisation, comment les personnes de l'endroit vont pouvoir réagir? C'est que confronté à un système différent, comment ça peut marcher? Donc la seule solution, c'est d'évoluer en vase clos. Et pour ça, donc, on crée une sorte d'élément de référence. Ouais. Et cet élément de référence va nous permettre d'être en permanence un repère. L'idée du mirador. L'Imérador est amené par le Netziv et il est amené sur le morceau de phrase qui commence par Nasseh lanu shem. Et donc, Moshe faisait donc remarquer que, a priori, ouais, en quoi on voit, lorsque la peuplade dit on va se faire un nom, un renom, on voit ici l'idée du Mirador. Dans se faire un nom, c'est l'idée d'avoir en permanence un repère, un renom. Ouais, en quoi on voit ici l'idée d'un mirador? Et donc, on avait proposé, en fait, peut-être que, donc pas tout à fait comme c'est marqué dans le Netziv, peut-être que toute cette pensée consensuelle qui a besoin d'une sorte de repère, d'éléments de référence extérieur, ouais, une sorte cette référence ultime, alors, a priori, ce n'était pas nécessaire que sa tête arrive jusqu'aux cieux. Ouais. Puisque le verset précise qu'ils veulent, comment dire, arriver jusqu'au ciel, alors, a priori, c'est pour pouvoir embrasser tout l'horizon. Et donc, ne laisser la possibilité à aucune personne qui voudrait donc s'enfuir, qui voudrait quitter le système, de s'enfuir. Sous-entendu. Si on était dans un système dans lequel ben, ceux qui veulent rester y restent et ils ont au moins un élément de repère qui pourrait être la tour, alors à ce moment-là, on n'a pas besoin d'avoir une tour qui va jusqu'au ciel. En revanche, la nécessité d'arriver jusqu'au ciel, c'est finalement de couvrir toute forme d'horizon et donc c'est là, de là qu'on pourrait en fait déduire l'idée du mirador. Ouais, donc c'est un petit peu ça, la logique de toute cette entreprise. Maintenant, on peut, à partir de là, rendre compte quelle est l'origine du Midrash qui est cité par Rashi, que les, comment dire, alors, un point donc assez important que j'ai oublié de vous dire en introduction, mais que beaucoup de Rishonim se font l'écho du Midrash, qui disent que Naaselanu Shem, Shem c'est pas simplement un renom, mais il dit ici d'Avodazara. Et il faudra donc se rendre compte, enfin rendre compte pourquoi les Chachamim ont vu dans ce Naaselanu Shem, on va se faire un renom, voilà, de peur qu'on soit dispersé de parmi les nations, il y a ici une idée d'Avodazara. Selon notre démonstration ici, on pourrait très bien s'entendre en disant voilà, bon, ben on est une peuplade qui s'est orchestrée sur. Qui s'est forgée, qui s'est orchestrée à partir d'un consensus. Ça marche pour nous, on va conserver ça, on va accéder, on va donc essayer d'avoir une durée dans cette entreprise. Et il n'y a pas forcément ici une idée d'Avodazara. D'où vient, dans la vision de Chazal, de Chachamim, cette idée d'Avodazara? Alors, l'idée qu'on pourrait développer ici, si on se trouve donc dans une pensée consensuelle qui va développer cette dictature, alors toute dictature a besoin donc d'une consolidation à l'intérieur et une non-porosité par rapport à l'extérieur, donc il faut que ce soit un système qui soit bien 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 hermétique, mais ne serait-ce que l'idée d'une référence ultime qui s'appelle Dieu, ouais, et qui est différente du consensus qu'on a pu créer, et encore une fois, quel que soit le consensus, lorsque le verset dit Dvarim Achadim, oui, il y avait des choses. Achadim, et Rashi va dire c'est un petit, c'est une façon de se combattre contre Hachem. On ne sait même pas c'est quoi ces choses. Peu importe. Ils disent des choses. Ouais. C'est qu'ils disent des choses consensuelles. Et ces consensus, peu importe quel est le consensus, on ne connaît pas le contenu de ce consensus. Ouais. Il y a un consensus. Ce consensus permet de créer une nation qui va en plus faire une production, et cette production, ouais, elle va être là comme un élément de référence qui s'appelle la tour, et cette tour va permettre donc de consolider la base de cette société, mais l'idée même qu'il existe un système de référence extérieur, divin, absolu, gêne par définition l'existence, donc il est nécessaire, alors c'est peut-être une image, de créer une guerre à Dieu, ouais, on va faire une tour dans laquelle on montre, dit le Midrash, ouais, c'est pas eux qui vont prendre l'épée, mais en fait, il y avait une épée qui était, d'après donc, le Midrash, une épée qui était plantée sur la tour pour montrer qu'on fait la guerre à Dieu. Donc, c'est qu'un symbole, c'est qu'une image. Ouais, sous-entendu, toute possibilité de référence extérieure donc, dans les autres nations, enfin, dans les autres peuplades, ne peuvent pas se on n'aura aucune possibilité de mixité avec eux, puisqu'on est renfermé sur nous-mêmes, on a une tour qui nous aide, mais qui plus est, une référence aussi absolue soit-elle que Hachem, que Dieu, elle-même est à mettre au monde qu'on fait la guerre à ça. C'est-à-dire que toute autre forme de pensée absolue et consensuelle ne pourra jamais pénétrer dans notre monde. Ouais, donc ce serait, si vous voulez, ici, la comment dire, une explication pourquoi les Chachamim voient ici dans ce projet qui va jusqu'aux cieux une volonté d'Avodazara. Ouais, ce serait un petit peu la source. Parce que par définition, toute l'entreprise de ces personnes, c'est de protéger le consensus. Ouais. Qui a tellement été, couronné de succès, puisque la nature s'est même pliée à ce consensus. Maintenant, quatrième point, lorsque Hachem va donc arrêter, entre guillemets, la casse. Alors, donc, sans tenir compte de votre remarque, Rav Weinstein, on a donc nous voulu voir ici que Hachem pointait du doigt la dimension du peuple unique et de la, comment dire, du langage unique et qui différait du premier constat qui était le langage unique et de Varim Achadim. Alors là-dessus, on a une sorte de chakira, une sorte de réflexion. Est-ce que il existe un rapport de cause à effet, de causalité naturelle entre le constat, dans le constat lorsqu'on dit que Safa Ahad, une seule langue, est-ce qu'une seule langue et Dvarim Ahadim ont une relation de cause à effet, c'est-à-dire que la seule la langue unique génère, oui, ou peut générer un système de pensée consensuel. Oui. Et si je lis le verset de la sorte, alors lorsque je vais lire le verset Amechad, un seul peuple, sans prendre donc la dimension positive de Rashi qui s'appelle Etova, donc Amechad, un seul peuple, impliquerait Safa Echad. Et là, alors on a un problème de logique. C'est que de façon générale, la Safa, la même langue, peut donner l'idée à une peuplade de se dire ben, on va créer des consensus, puisqu'on parle la même langue, on s'entend. On a une unité, donc une unité de langue, qui va nous permettre d'avoir une unité de pensée qui s'appelle la pensée consensuelle, ça on comprend. En revanche, quel serait le lien logique de dire que Amechad, ouais, impliquerait un seul peuple, l'unité du peuple, impliquerait une Safa Echad, et si c'est ça, ce serait une nouvelle Safa Echad, une nouvelle langue consensuelle. Une nouvelle langue unique. Je ne sais pas si vous me suivez. Si je respecte l'ordre du verset. Ou bien, deuxième possibilité, je dis que Amechad, Hachem vient pointer du doigt quelque chose qui est plus en amont de Dvarim Ahadim, sous-entendu la Safa Ahad, tant qu'elle produit une pensée consensuelle, à la limite, c'est pas ça le problème. C'est lorsque cette Safa Ahad, cette langue unique, génère un seul peuple. Aujourd'hui, il y a deux passages ici. Ouais. Il y a une seule langue qui peut amener à Dvarim Ahadim, c'est-à-dire à une pensée consensuelle. Ouais, on pense la même chose. Mais lorsque cette pensée consensuelle va jusqu'à forger un peuple, ça veut dire que on a une sorte de peuple, oui, qui a par le biais de la pensée unique créé des individus qui n'ont rien d'individuel, qui ont gommé totalement leur singularité radicale. Ouais, c'est qu'ils ont ce peuple, cette Amechad, et ce serait un constat donc extrêmement péjoratif, c'est que c'est un peuple qui a tout simplement mis de côté la dimension de l'individu. Et ce serait, si vous voulez, une conséquence, non pas inéluctable, mais possible de la pensée consensuelle. Et donc, la lecture des versets serait la suivante. On a à la base une seule et même langue qui aurait été imposée, ou bien c'est une illusion du monde entier qui est une seule et même langue. Cette seule et même langue donne une idée de créer un consensus de pensée. On parle la même langue, on va penser la même chose. Jusque-là, à la limite, ça va. Lorsque cette pensée va se cristalliser à partir d'une production qui réussit, qui s'appelle la tour, et donc qui permet de sécréter un seul et même peuple, mais un peuple qui est totalement, défini par un projet commun dans lequel... donc, qui est basé sur un consensus dans lequel il n'y a aucune expression de l'individu qui peut s'exprimer. Ouais. Tout est en fonction de cette norme, de cette référence extérieure, de cette tour. Ouais. Il n'y a aucune place à une quelconque individualité. Il n'y a aucune place à une quelconque émotion. Les seules traces d'harmonie, ce sont l'onomatopée de l'éven. Ouais, les seules traces d'harmonie, il n'y a pas de production, il n'y a pas de création, oui, il n'y a pas de génie créateur. Les seules choses ne sont que fonctionnelles. Donc on a carrément, on arrive, si vous voulez, jusqu'à un peuple totalement amechad, un peuple uni, mais dans sa version la plus péjorative possible, et donc pas comme Rashi, pas dans le sens de Rashi ici, dans le sens où c'est un peuple, ouais, qui parle exactement la même langue comme au début, mais qui sont allés jusqu'à être forgés totalement de façon presque des clones. Et donc ce serait un petit peu le point final, le point d'orgue de cette civilisation. Oui, donc il a commencé par un consensus, par une dictature, qui est allée jusqu'à créer une sorte d'humanité totalement uniforme. Et donc Hachem intervient en disant ça va pas.
Le problème d'Hachem, alors, a priori, c'est pas la tour, c'est la pensée unique.
Ah oui, mais la tour, elle a aidé à. La tour, elle a été un élément de référence. C'est-à-dire que ce n'est qu'à partir de la tour qu'Hachem intervient. Il n'intervient pas une fois qu'il voit Dvarim Achadim. Pourtant, Dvarim Achadim, c'était un consensus. C'est une pensée dictatoriale. Oui.
Ce qui est important, c'est que les commentateurs font référence à une guerre contre Hachem, mais on n'a pas l'impression que c'est ça qui vient d'Hachem. On a l'impression que c'est vraiment la pensée unique des hommes qui vient d'Hachem. C'est là-dessus qui met l'accent, en fait.
Mais cette pensée unique oblige, comme on l'a dit, à évacuer toute forme de pensée autre, déjà au niveau des humains. Ouais, donc on a créé un mechad et aucune porosité avec l'extérieur, mais qui plus est aussi avec une référence ultime, qui ne serait pas le système de référence des voisins, mais de Hachem, qui serait un système absolu. Donc Hachem, cette pensée consensuelle, a évacué Hachem. Donc c'est oui une idée de Milchama. Il ne faut surtout pas qu'il y ait une idée d'absolu qui puisse pénétrer dans le panorama de cette ville. Et donc, cette terre, et c'est ça qu'on a dit, c'est pas simplement une tour, c'est notre totem. Ouais, on a un totem ici, un grand totem qui est pour nous notre obélisque, qui est pour nous notre point de référence. Non, beaucoup plus que ça. C'est un totem qui doit aller faire la guerre à Dieu. Parce que Dieu peut amener une sorte de référence différente.
Oui, mais si c'est une guerre à Dieu, alors c'est bien qu'on prend en compte quelque part lui contre Hachem, c'est-à-dire qu'on reconnaît Hachem comme étant au-dessus de nous et qu'on conteste la suprématie qu'on y voit. Mais c'est pas
une négation. 100%. Rashi va sans dire que Nimrod, Yodea Beboro, ou Mikave Nimrod Bo. Toutes les générations, il n'y a pas encore d'agnostique ou de d'athée. Ça n'existe pas encore. Ouais. On va attendre des siècles avant d'avoir des athées. C'est toutes des personnes qui sont tout à fait conscientes de que Hachem a créé le monde. Ouais. Et il y aura un débat éventuellement. Est-ce qu'une fois qu'il a créé le monde, il s'est retiré ou pas? C'est le débat dans lequel Avraham va pénétrer. Ouais, est-ce que Hachem, il a encore quelque chose à faire dans ce bas monde ou pas? Et d'ailleurs, c'est ça. Hachem, d'ailleurs, est stigmatisé ici comme étant quelqu'un. On lui reproche de s'occuper des Elunim. Surtout, il n'y a rien à faire ici, par terre. Ouais. Et lorsque Avraham Autobrix fait remarquer que, d'après le Midrash, que même lorsqu'il va se jeter dans la fournaise ardente, Avraham arrive au moment où il se jette, à la conclusion, ben, finalement, donc, En Manik Babira. Surtout, Hachem existe, évidemment, mais il ne s'occupe pas de ce qui se passe ici. Il arrive à cette conclusion et finalement, il va être affirmé dans cette conclusion. Mais en tout cas, il y a un vrai débat, est-ce que Hachem il intervient ou pas, mais il existe. Oui, il est évident. Oui, et donc, Moshe rajoute une idée, c'est de dire que la présence même d'un consensus, ouais, quel qu'il soit, qui est différent de Dieu, c'est par définition une rébellion contre Dieu. Je répète, lorsqu'on s'accorde sur une pensée consensuelle, quelle qu'elle soit, ce que fait remarquer de façon tout à fait judicieuse, Moshe, c'est qu'on ne nous a pas dit, ouais, c'était quoi leur consensus, ouais. C'est-à-dire que ça peut être un consensus des dictatures les plus horribles comme un consensus de l'amour du prochain. Peu importe. Oui, le constat de Dvarim Achadim, Etsem, le fait même qu'il existe un consensus est gênant, autre que Dieu. Et à la limite, en poussant bouchon, c'est-à-dire que dès qu'on se focalise sur autre chose que Dieu, appelez ça ce que vous voulez, appelez ça le Mashiach, appelez ça ce que vous voulez, il y a le bas blesse. Ouais. Il ne faut pas perdre de son point de mire Hachem. Et donc dès qu'il existe une pensée consensuelle, aussi louable soit-elle, aussi noble soit-elle, ouais, puisque le verset ne nous a pas dit qu'il y a dans d'autres, comment dire, dans ce dôme, on va stigmatiser le problème de la déviance, ouais, de la déviance comportementale, mais aussi le problème de la relation autrui, dans lequel il n'y a pas de tzedaka. Dans le Maboul, on va parler clairement de problèmes de rébellion. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus fin qui est en train de se mettre en place. Ce sont un peuple qui est uni, ouais, qui est uni de façon très forte. Ouais, qui a créé un consensus qui est peut-être très positif, l'amour du prochain. Ouais. L'amour du prochain, c'est des gens, qui une société qui s'est créée sur l'amour du prochain, le respect du prochain, et c'est tellement puissant qu'on va créer Pour, alors, on va en parler tout de suite. Pourquoi on a besoin de créer une tour, pour, d'après un des Midrash, pour, support, pour éviter la nouvelle catastrophe? Mais c'est quelque chose qui est extrêmement fort et qui tient extrêmement la route. Et il faudra, bien sûr, l'intervention directe de Hachem si ça continue comme ça, mais où on va? C'est-à-dire qu'il est presque stupéfait du résultat magnifique.
Ça. Autant la pensée unique par rapport à Hachem, je comprends pas, j'ai du mal avec l'intervention à proprement parler, comme si la tour nous pose un problème, ça n'arrive pas à...
Mais il a pas dit que la tour, ce qui lui pose problème, il a dit que la tour engendre une focalisation sur autre chose que lui. C'est ça que je viens de dire. Je viens de dire que la tour, elle est l'outil qui va permettre la cristallisation et l'émergence d'un nouveau peuple, surtout. Un peuple de personnes qui ne fonctionnent que par consensus, aussi positif soit-il. Ouais. Et ce consensus est suffisant pour pouvoir justifier tout un peuple avec des générations, de générations, de générations. Et d'ailleurs, Hachem ne va pas se contenter de détruire la tour. Navlet, c'est fatam. Il va remonter à l'origine de tout. Il s'appelle. C'est pas physiquement qu'il va enlever la tour, c'est qu'il va comprendre que c'est inéluctable. Il est inéluctable lorsqu'on aura une communauté, comment dire, de parole. Ces personnes, étant donné que ce sont des personnes de certaine élévation, puisqu'ils cherchent des liens, un ciment social autour de grandes valeurs, donc il est inutile, tant qu'on ne pourra pas leur disperser leur langue en créant un chinois et un japonais, et bon, ils se comprennent peut-être, mais en tout cas un anglais et un chinois, eh bien, ce serait inéluctable, ils ont une communauté de langue, donc ils vont développer un consensus, et s'ils développent un consensus, ils vont faire une production, et en faisant une production, donc en fait, il y aura un système de tour qui va continuer à se faire. Donc Hachem ne va pas simplement détruire la ville, il va leur enlever tout le process, ouais, toute leur capacité à communiquer, parce que cette capacité à communiquer se traduit par un consensus. Et donc il faut à tout prix bannir le consensus, aussi noble soit-il, qui vient faire écran par rapport à la relation divine. Que j'ai l'impression de comprendre de ce que veut dire Moshe, c'est que il est urgent de les arrêter tout de suite, parce que cette hardoute est une force. C'est une force qui est tellement forte qu'il n'y a plus rien pour les arrêter. Ouais, ce consensus est une force qui est suffisante pour fonctionner en roue libre. Il n'y a plus rien. Pardon.
C'est comme cette phrase qui est qu'on dit rien ne peut s'opposer à la volonté d'un Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont une telle force parce qu'ils sont unis que quelque part.
C'est-à-dire que Hachem arrive au constat que.
Hachem ne pourrait plus s'opposer à eux.
Non, il arrive.
Ça, c'est un
autosuffisant. Ouais, c'est un système, a priori. C'est ça qu'en fait les Chachamim viennent dire de façon extrêmement subtile. On appelle ça de l'Avodah Zarah. Rajbam, il amène Shem, c'est Shem, Avodah Zarah. Pas que Rajbam. Ça veut dire que c'est une nouvelle définition de l'Avodah Zarah, c'est une focalisation sur quelque chose de figé qui est autre chose que Hachem. Ce qui les occupe dans leur vie, c'est on va dire, être focalisé que sur le chesed. Ouais, c'est la valeur suprême, on a brandi une énorme tour dans laquelle on se définit par ça. Ouais, c'est notre mode de définition. On finit par tant qu'on y est, à oublier Hachem dans cette histoire. Oui, mais on a ça même, ça veut dire on pourrait comment dire, se focaliser sur la Torah. Valeur suprême, ouais, la Torah, et puis...
Si on se focalise sur la Torah, c'est la diversité.
On pourrait hypertrophier une valeur noble et qui devient en fait un suffisante pour pouvoir générer un peuple. On passe à un peuple en fait. C'est un peuple qui se définit que par ça. Ouais, mais c'est focalisé sur Dieu. Alors, c'est là qu'en fait, lorsque on va, effectivement, ça veut dire que si on reste au niveau des tables de la loi, on va se focaliser sur autre chose que Dieu. En revanche, si on réalise que par le biais de l'étude, je ne vous pose aucune réponse, hein, par le biais de l'étude, alors en fait, il y a une infinité. Donc la Torah, c'est la parole, c'est l'expression verbale d'Hachem. Alors, quelque part, on est en train de créer un lien avec Hachem. Donc on est, la Torah, donc, c'est quelque chose de très proche de Dieu. Ce soir, on va dire que Oraita et Kuchabirichu avec l'Israël Chadouz. Bon, je ne comprends pas ce genre, mais en tout cas, il y a une idée de proximité très proche. C'est-à-dire qu'il y a un pont évident. Donc je dis que là, on n'est pas dans un écran. En revanche, prend une autre valeur, qui est peut-être même à l'intérieur de la Torah, qui pourrait jouer le rôle d'écran par rapport à Dieu. Et on se permet de dire ça avec Rav Moshe, parce que aucune mention, rien ne nous est dit, c'est juste le fait que c'est une pensée unique, consensuelle. Maintenant, on a donc fini, si vous voulez, cette première possibilité. Maintenant, deuxième axe de pensée. On n'est plus dans la version du consensus. Donc, Dvarim Achadim, on pose comme définition non pas le principe du consensus, mais on s'appuie donc sur un verset qui parle de Yaakov, lorsque Yaakov va travailler de façon avec un labeur terrible pendant 7 ans pour pouvoir obtenir Rachel comme femme. Alors il s'exprime en disant que Vayu Be'enav Ke Yamim Achadim, si ma mémoire est bonne, Ke Yamim Achadim. Donc le verset dit la chose, ces 7 ans sont été pour lui comme Yamim Achadim, des jours, quelques jours, au sens très peu de jours. Ouais, il n'a pas travaillé 7 ans, mais pour lui c'est comme quelques jours, 3-4 jours, pas plus. Oui. Aujourd'hui, Achadim, on n'est pas dans le Achid, la réunion, le système du consensus, mais on est dans Achadim, d'après la définition de la Torah, dans le contexte de Yaakov, et qu'on reprend ici si vous le voulez bien. Alors on est dans une pensée, pardon, dans Dvarim, Achadim des pauvres, peu de paroles. Ouais. Il y a une pauvreté de l'expression verbale, sans forcément rentrer dans un système de consensus, pas du tout, mais on est dans une pauvreté. Sous-entendu, on a une même langue, tout le monde parle l'anglais, ou la Shana Kodesh, comme Rashi, peu importe, on n'a pas voulu rentrer là-dedans, mais y a très très peu d'expression. Et donc, on peut imaginer d'où provient l'absence d'expression. Il y a deux possibilités. Soit ce sont des personnes qui se sont froissées. Ouais. C'est-à-dire que lorsqu'on est froissé avec quelqu'un, ben on évite la communication. Voilà. On coupe avec lui. Mais puisque on est dans un verset, enfin, dans les versets pointent du doigt le fait que c'était un seul peuple, Donc on met en exergue la dimension d'unité. Donc quelque part, on a un peuple ici qui est dans une pauvreté de communication, certainement par trop de proximité, par trop d'amour. C'est un petit peu le travers qui peut se passer dans un couple, oui, qui fait que on a tellement de points communs qu'on finit par ne plus communiquer. Donc c'est, si vous voulez, une pauvreté de la communication qui est non pas due par un élément, mais paradoxalement par une trop grande proximité. Et donc, et ça c'est quelque chose que, donc, qu'on peut palper donc, de façon très, très proche, plus on est proche d'un être, plus quelque part tout se situe dans le non-dit. Voilà, on se comprend très bien, un clin d'œil, une petite expression. Ouais. Donc il n'y a pas forcément besoin d'utiliser la verbalisation. Et donc, si on poursuit ceci, de façon donc, naturelle, alors je répète, Vaya Safarat, si on lit donc, le verset, il y avait une seule langue, on parlait la même langue, on était très proches l'un des autres. Donc du coup, on ne prend plus le soin de pouvoir s'exprimer mutuellement. Il n'y a pas besoin vraiment d'une communication puisqu'on s'aime. On est proches l'un des autres, les uns des autres. Et donc à partir de là, il ne me reste, puisque j'ai plus aucune preuve à faire vis-à-vis de l'autrui, puisque tout fonctionne tellement bien, il me suffit de, comment dire, de s'entendre sur quelques grands symboles, sur quelques projets en commun. À la limite, dans le cadre du couple, ce sera les enfants. Voilà. C'est qu'on n'a pas forcément besoin de se communiquer, puisque de toute façon, on a créé tellement de choses en commun qui sont les enfants. Et donc, à la limite, la dimension du couple, elle va totalement s'effacer. On pourra même éventuellement entendre l'idée que le papa et la maman, tel que le proposait Moshe, vont plus s'appeler Jacques et Cunégonde, mais vous appelez papa et maman. Mutuellement, ouais. C'est-à-dire que, puisque fondamentalement, étant donné qu'on a une référence, qui s'appelle notre tour, nos enfants, ouais, alors quelque part, cette référence, qui est le projet commun, qui a réussi, à partir de petits embryons, qui s'appellent les premières briques qu'on a mises en place, ouais, donc ça fonctionne, ouais. C'est-à-dire que lorsqu'on est des personnes qui s'entendent, une société qui s'entend, qui parle la même langue, et on voit que d'un point de vue fonctionnel tout fonctionne, alors on n'a plus besoin de rentrer dans un mode de communication autre que le mode de communication fonctionnelle. La place de la parole est, comment dire, est extrêmement amenuisée. Il y a une sorte de paupérisation de la parole. Alors, on est éventuellement dans le fusionnel et dans la communication muette, ouais. Mais, et donc ce serait ça que le verset amène, Safarad, Udvarim Achadim, très pauvre de parole. Et puisque on a, comment dire, et d'où vient quelque part cette absence, alors pas d'où vient, puisque on est trop dans l'absence de communication, les seuls éléments de référence qu'on aura et les seuls substituts de communication seront les projets qu'on aurait eu ensemble. Donc, la tour en question. Maintenant, si je dis selon cette, cette vision, puisqu'on est proche l'un de l'autre, donc il nous suffit, si vous voulez, d'avoir juste un élément palpable de communication, une sorte de référence. Si c'est comme ça, quelle est donc la nécessité que cette tour, puisque c'est un projet commun, aille jusqu'aux cieux? Est-ce que vous prenez le problème? Ça veut dire que, et il faudra rendre compte aussi pourquoi, selon ce développement, pourquoi on a besoin donc de rentrer cette idée d'Avodazara. D'où vient l'Avodazara? Donc je répète, on a des personnes qui parlent la même langue, qui s'aiment profondément, c'est une peuplade, je sais pas, Rotam, des familles qui s'entendent à merveille, qui vont petit à petit, et vous voyez ici qu'il n'y a pas quelque chose de malin. Par opposition à un premier axe, il y avait une volonté extrêmement subtile des maîtres de la population qui s'appelle Nimrod de créer une sorte de consensus pour pouvoir dominer, pour pouvoir faire beaucoup de choses. Quitte à ce que vous, le Rav voulait dire en introduction, de créer carrément une langue de communication pour arriver à ses fins. Voilà, donc c'est une véritable pensée consciente. Ouais, et de façon consciente, Nimrod va créer cette entreprise. Là, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus, comment dire, malin, dans le sens pas malin, mais dans le sens sans s'en rendre compte. Ouais, c'est la nature des choses qui fait que les gens qui sont proches finissent par réduire leur mode, leur communication, et vont se suffire des projets réussis qui ont été faits en commun, ouais, comme étant quelque part l'épreuve de leur entente ou les vestiges d'une communication passée. Donc c'est une parole qui est fossilisée, mais pas dans le sens que l'avait employé le Rav Boer, une parole qui est fossilisée en fonction d'un passé. On a eu une fois une communication, ouais, qui fait qu'on s'est, on a créé une société ensemble, ouais, une société individuelle, mais c'est jadis ça. Maintenant, quel est le poumon, le moteur de la communication? Ce ne sont que les projets fonctionnels, ce qui marche, la tour. Et donc, à partir de là, il faut comprendre qu'est-ce que Hachem a à faire là-dedans. Qu'est-ce qu'Hachem a à faire là-dedans? Et en quoi il y a une volonté de créer une sorte de défi à Hachem avec une épée, ouais, ou bien, en fonction des Midrashim, une volonté de faire la guerre avec Hachem. Ouais, qu'est-ce qui, d'où vient, si vous voulez, la nécessité de faire la guerre à Hachem là-dedans? Alors, l'idée donc que vous voulez éventuellement développer, c'est que de la même façon que on vit une vie dans laquelle on ne donne pas de poids à la parole, à l'expression, mais que à, comment dire, au projet qui est une preuve d'une parole d'antan, mais aujourd'hui on ne vit plus la parole, on ne vit plus l'expression orale. On ne vit plus dans la communication. Il y a eu une communication, jadis, mais on ne vit plus dans cette communication. Surtout, on ne peut plus croire à la parole comme étant un ciment de notre union. Les seules choses qui sont des preuves de notre union, la société, du coup, peu importe, ce sont ces projets. Sous-entendu, on ne peut pas imaginer que la parole est une force de pérennité. Et il dit donc un midrash qui dit la chose suivante: En Tane Rabbi Shimon ben Gamliel, En osim nefashot les tzadikim. On ne fait jamais de monument, de stèle pour les tzadikim. Divrehem en zirchoneem. Les paroles des tzadikim, ce sont leur stèle, leur souvenir. Ouais, c'est-à-dire que si tu veux, comment dire, attraper le souvenir d'un tzadik, ce sont ses paroles, ce qu'il a dit. Ouais, alors, a priori, lorsqu'on parle des paroles, on fait référence donc aux enseignements de nos sages, mais chez les tzadikim, ce qui est intéressant, c'est que chez les Talmidei Chachamim, même leurs paroles sikhat roulin, leurs paroles, profanes, ouais, ont statut de Torah, sous-entendu. Toutes les paroles, ouais, c'est quoi le vestige d'un tzadik? Ce sont ce qu'il a dit. Ouais. Eh bien, à partir du moment où on est dans une société dans laquelle il n'y a plus de communication, on ne croit plus à la puissance de la communication, donc c'est pas possible que la communication ait une quelconque vertu de pérenniser quoi que ce soit. La seule chose qui peut être une marque de pérennité, c'est une tour, un élément charnel, ouais, un projet qu'on a eu en commun. Mais la parole ne peut en aucun cas être une source de pérennité. Et donc, par extension naturelle, on ne peut pas envisager que la parole de Dieu puisse être source d'une quelconque pérennité. Et c'est la raison pour laquelle, c'est là qu'on voit, en fait, si vous voulez, le troisième midrash qui est amené par, le troisième avis qui est amené par Rashi. On avait un petit peu tiqué en début de parcours en disant, mais je comprends à la limite que Dvarim Achadim, Alors, Achadim, c'est quelque part, ils étaient unis dans un consensus contre Hachem, ça c'est le premier sens qu'on a donné. Deuxième possibilité, Al-Yechido Shalolam, c'est l'unique du monde, le représentant de l'unicité, le consensus ultime qui est soit Hachem, soit Avram, soit les deux, peu importe. Et maintenant, troisième Midrash, donc il pourrait être plus adapté à ce qu'on est en, à ce, cet axe de réflexion qu'on est en train de développer là maintenant, c'est qu'il y a eu une promesse de Dieu, claire. Il n'y aura plus jamais de Maboul. Brit et de Rotonam. Mais ça, les paroles ouais, de Dieu, on ne peut pas y croire parce qu'une parole n'est jamais source de pérennité. Et donc comme ça, cette parole ne veut rien dire, n'a aucune, comment dire, possibilité de pérenniser quoi que ce soit. Donc il est urgent que nous construisions un symbole commun, une tour, qui va jusqu'au ciel. Pourquoi jusqu'au ciel ? Parce que fondamentalement, elle va permettre de garantir de façon physique la non, comment dire, la non-possibilité de comment dire, d'un prochain cataclysme qui va précipiter. Sous-entendu, à partir du moment où on ne croit plus en la parole, alors il est absolument impossible de croire en une quelconque parole, fût-elle celle de Hachem, et donc cette parole va être, si vous voulez, complètement remplacée, substituée par cette tour. C'est-à-dire que cette tour, ouais, est un petit peu une volonté de pérennité, sachant qu'on a aboli toute forme de communication verbale. Et donc cette pérennité doit amener, doit être un garant du ciment et de l'unité du peuple, mais aussi d'une pérennité 1000 ans en avant, parce que fondamentalement, les seules choses qui sont tangibles, les seules choses qui ont un poids, les choses qui marchent dans la vie, ouais, c'est les projets communs. En revanche, une parole, ça ne fonctionne pas. Ça ne crée rien, une parole. Et donc, ça c'est un petit peu donc leur projet, ouais. Et donc alors qu'est-ce que maintenant, et donc on comprend bien ici qu'à partir du moment où on ne croit pas en la parole, et donc on ne croit pas non plus à la parole et à la promesse de Dieu, donc il y a ici une substitution totale de, comment dire, de l'entreprise de Dieu. Et donc l'idée, c'est de dire, c'est pas normal que Hachem s'arroge, donc je rentre maintenant dans la première explication de Rashi, s'arroge le monde supérieur, ouais. On va aller éventuellement lui faire la guerre dans ce monde supérieur, parce que fondamentalement, il ne doit pas y avoir de place à un monde qui est basé sur la communication. Et Hachem, c'est tout passe par la parole. Ça veut dire que ce que j'entends dire ici, c'est que le mode de communication qui va se substituer, c'est une tour à la place d'une parole, sous-entendu. On va nier toute forme de communication de Dieu vis-à-vis de ces hommes qui passent par la parole, qui passent par la prière, qui passent par l'étude. Donc il y a une sorte de substitution totale de la place de Dieu. Et donc c'est là que les Chachamim voient ici une trace, plus qu'une trace, une marque d'Avodah Zara très marquée. Donc à partir de quelque chose d'extrêmement subtil qui s'appelle que on a créé une vie, une société dans lequel il n'y a absolument aucune place à la communication. Et donc il va finir par ne plus croire en la communication, et moins je crois en la communication, moins quelque part je peux tisser une relation de communication avec le divin. Ce sera un petit peu ça. Et donc maintenant au niveau du constat, on va s'arrêter à ce point. Lorsque Hachem vient et dit En am echad ve safa. Am echad, ve safa. Echad le kulam ve zeichilam la sot. Ve atalo ibatsame em kola shayazmo la sot. Voilà qu'on a ici un peuple unique et safa achad. qu'il faut comprendre ici, c'est que la question qu'il faut poser ici, c'est que Hachem, à ce moment-là, selon l'axe de réflexion, ne vient pas pointer du doigt la pauvreté de communication. Il veut dire qu'il y a un peuple unique et il y a une langue unique qui était pour, a priori, à la fois le peuple unique et la langue unique n'étaient pas des choses a priori péjoratives. Donc à ce moment-là, la piste qu'on pourrait avoir ici serait par opposition au premier axe de dire que ce « en amechad vesafachad ekulam » serait dans le même sens que Rashi, de l'observation donc de Rav Grandstein, de dire que ça reste positif. Ouais. C'est-à-dire que « dvarim achadim », ça le problème, c'est la pauvreté, la paupérisation de la communication. Maintenant, il n'empêche qu'il y a quand même quelque chose de oui, donc soit de façon positive ou bien, donc effectivement, ce que dit Moshe, c'est que c'est le danger. Ça veut dire que Hachem, ce qu'on voulait dire depuis le début, c'est qu'Hachem prend les choses en amont. Ouais. Justement, on retrouve cette idée, c'est que il y a un problème ici, il y a des gens qui s'aiment et qui parlent la même langue. Et ça va, par définition, entraîner une pauvreté du discours, une pauvreté de la communication. Ce sont ça les ingrédients problématiques. Ouais. Ça va amener de façon inéluctable à Dvarim Achadim. Donc, il faut à tout prix créer la désunion. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui se sont tellement habituées à une pauvreté de la communication en croyant. Ouais, c'était pas quelque chose de... une volonté qui démarre, ouais, par un projet. Et d'ailleurs, c'est bien rendu compte parce qu'on voit bien qu'il n'y avait pas un projet de construire une tour. On crée des briques, ah tiens, ça marche, on va continuer. C'est-à-dire que, quelque part, il existe un bon substitut de la communication. Ce n'est pas quelque chose qui était prémédité, par opposition au premier sens, dans lequel on voyait quelque chose de prémédité. Une création d'une nouvelle langue, un Nimrod qui va créer un consensus. Sinon, là, il y a quelque chose qui est vraiment presque dans l'ordre naturel des choses, de l'évolution des rapports humains. Et dans cette évolution des rapports humains, eh ben, quelque part, ouais, à partir du moment où il existe une union, un amechad et une safahad, en tout cas pour cette population, on prend le risque ultime d'arriver à une absence de la communication qui va se traduire ensuite rapidement par une absence de la croyance en la parole de Dieu. Ouais, non, une petite erreur que j'ai faite en un instant, c'est que c'est pas inévitable. Hein. Non, mais j'ai dit inévitable pour cette population. Ils ont déjà fait cette expérience. Pour cela, la seule solution, c'est ça. On va pas commencer à jeter la pierre sur l'unité des peuples. Ouais, puisque Hachem cherche ça. Ouais. Mais pour cela, il n'y a plus de solution pour eux. On aurait pu éventuellement leur faire des stages de communication, des stages d'apprenants. Mais eux, ça devient quelque chose d'inévitable parce qu'ils ont trop, à la limite, vécu. Dans un monde dans lequel tout marche sans communication. Donc pour eux, c'est ça que je vous ai indiqué, pour eux, pas pour... je crois que Rav, vous avez quelque chose à dire ? Oui, donc je résume rapidement donc les deux axes qu'on a à dire, très rapidement. Donc le premier, c'était de dire que Dvarim Achadim, c'est le principe de la pensée consensuelle qui va déboucher sur, comment dire, un projet... Ouais, donc un monde qui est parfait, qui gravite toujours autour de ce consensus et les pierres obéissent à ce consensus et donc qui amène petit à petit l'idée de dire que autre chose que ce consensus est forcément à bannir est dangereux et cette autre chose c'est aussi la pensée de Dieu. C'est le premier axe, très résumé. Deuxième axe qu'on a donc développé, c'est de dire que Dvarim Achadim n'est pas la pensée consensuelle, mais aradim, dans le sens où quelques. Il y avait quelques paroles. Sous-entendu, un appauvrissement de mode de communication. Donc il n'y a pas quelque chose qui est voulu, qui est prémédité, mais quelque chose qui est de l'ordre, justement, des rapports humains proches. Ouais. Des rapports humains amicaux, des rapports humains, à la limite même, d'amour. Et qui, par absence de communication, va petit à petit, comment dire, se traduire par une sorte d'absence de l'individu, comme on a voulu dire que l'homme et la femme ne font plus comme les femmes, ne sont que des personnes qui ont une fonction de créer un projet. C'est le seul vestige de notre communication d'antan. Ouais. Mais il n'y a rien de palpable dans le quotidien, et donc ça, de façon pas forcément inéluctable, mais peut amener donc aussi à avoir un doute sur la fonction de pérennité qu'amène la parole de Dieu. Ou le projet les engloutit. Ou le projet les engloutit.
Et du coup, on peut penser à Zabiz sur la situation qui est la nôtre aujourd'hui, on appelle le Kamidash. On utilise un verso qui dit une chama parum spatenu. C'est-à-dire, on va remplacer les taureaux qu'on a portés comme corbanot par le produit de nos lèvres, c'est-à-dire par la parole. On va remplacer les corbanot par l'étude, peut-être même si on peut se dire, de la récitation des textes qui parlaient de ça, qui parlent de ça. C'est-à-dire, le texte de la Torah qui parle des taureaux, etc. On remplace ça, aujourd'hui on a que ça. Aujourd'hui on n'a pas de corbanot, mais il y a vraiment, la fameuse Mara, la femme de la faute, dont vous l'avez ramené, enfin, c'est pas une cette partie-là, mais la Mara est là-bas aussi. Où justement, on posait cette équivalence. On dit, on n'est pas privé de tout. On n'a pas de tamidash, mais on a quasiment des équivalents de tamidash. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de tamidash, mais on a des équivalents et on peut considérer que, au fond, le galout, la situation dans laquelle on est maintenant, c'est parce qu'on n'a pas su gérer les taureaux, encore comme il le fallait. Alors, pour qu'on comprenne ce qu'il faut faire avec les taureaux, pas s'arrêter au projet appelé charnel, enfin, de ce projet taureau matériel, il faut passer par un stade où on est uniquement au niveau de l'étude, au niveau de la parole, pour à ce moment-là permettre que les gestes, que les actes ne soient pas justement des actes dépourvus d'âme. C'est la même chose faut toujours veiller sans arrêt à ce qu'il n'y ait pas de fusion dans tout ce qu'on fait. D'abord, c'est expliqué en son temps que l'échec de la Abraham Avinu et Sarah Avinu sur les effet Jachir Asoub Haran, c'est un énorme échec parce qu'ils ont fait énormément de prosélytisme et à la génération d'après, il n'y a personne. Où sont les enfants de tous ces gens-là? Il n'y a pas d'enfants. Pourquoi il n'y a pas d'enfants? Parce que l'image dit que tous les hommes se sont appelés Abraham et toutes les femmes se sont appelées Sarah. Ils ont fusionné avec Abraham et fusionné avec Sarah. Donc ils n'existaient plus, ces gens. Ils n'ont pas d'enfants. Même s'ils ont complètement eu des enfants, les enfants ne les ont pas suivis. Ils n'avaient pas de parents, ces enfants-là. Leurs parents n'existaient plus, ils étaient phagocytés. C'est leur faute. Bon, je me demandais pourquoi Abraham et Sarah ne les ont pas empêchés de fusionner de cette manière-là. Mais en fait, de facto, c'est ce qui s'est passé. Parce que dit le Midrash, il dit que ce sont appelés Abraham et Sarah. Tout le monde s'est appelé Abraham et Sarah. Ils n'existaient plus comme tels. Et là aussi, je pense que pourquoi est-ce qu'Hachem n'a pas laissé finalement un projet, et pourquoi ce projet tourne mal finalement, pourquoi ça devient de l'idolâtrie? Parce que justement, la fusion, c'est l'idolâtrie. La fusion, c'est l'idolâtrie. Chez les Israël, il n'y a pas de fusion avec Hachem. On n'est pas comme dans le christianisme où on est dans la divinité, où on est en. Chez nous, il y en a deux écoutes. Les écoutes, c'est collé. C'est aussi proche que possible, mais séparé. Deux choses distinctes. Deux parties collées. Il y a deux parties. Il reste deux parties aussi proches que possible. Mais ce sont deux parties distinctes. On ne se perd pas dans la divinité. On ne va pas se fondre dans la divinité. Ça n'existe pas chez les distincts. Et donc, c'est Lachon à Kodesh, en fait. Même si on dit comme Rashi que c'était Lachon à Kodesh qu'ils ont parlé, qu'est-ce qui fait que Lachon à Kodesh est Lachon à Kodesh? C'est cette richesse qu'il a. Et qui est-ce qui met cette richesse? Qu'est-ce qui développe cette richesse? Ce sont les hommes. C'est l'interprétation des hommes de ce Lachon à Kodesh. Lachon à Kodesh, un mot, c'est un mot. Je veux dire, c'est les mots de la Torah, ils sont là. Il n'y a qu'un seul mot. Selon toute la richesse qu'il y a dans ce mot, c'est l'inspiration qu'Hachem va donner aux Chachamim pour justement ouvrir ces mots et leur faire donner tout ce qu'ils sont capables de donner. Et donc eux, ce qui s'est passé, c'est qu'ils parlent de la Lachon HaKodesh, mais complètement stérile. C'est la Lachon HaKodesh, mais comme ils ne veulent pas l'ouvrir, parce que vouloir l'ouvrir, c'est vouloir avoir compris que Hachem, c'est l'ouverture complète. Eux, ils veulent se faire leur nom à eux. Ils ne veulent pas s'ouvrir, justement. Ils sont complètement fermés sur eux-mêmes. Donc, ils refusent de s'ouvrir. Donc, ils refusent. Ils n'ouvriront jamais ce langage. Ils ne s'ouvriront jamais. En fait, c'est tout refermé sur soi-même. La fusion aussi, d'une certaine manière, c'est une fermeture. Il n'y a pas d'ouverture. Je crois que c'est ça le problème. Alors, tu peux le dire effectivement par amour, mais il faut dire que c'est un amour. Il ne faut pas voir cet amour comme quelque chose de positif. C'est un amour qui tue.
Juste une toute petite remarque sur un truc qui, au passage, mais c'est parce que c'est un réflexe quasi professionnel, je suis obligé d'insister sur le fait que c'est Iru Migdal. Parce que il reste encore une trace de quelque chose d'ambigu dans le projet, parce que la ville, c'est c'est quand même le lieu de l'hétérogénéité, du croisement de langues, de cultures, etc. Donc d'une richesse
métissage
effervescente. Et en même temps, on la colle à Migdal, qui est vraiment l'endogénéité parfaite. Quoi. Donc il y a une opposition entre l'hétéronymie, l'hétérogénéité et l'endogénéité de la tour. Mais c'est curieux qu'il y ait eu le rapprochement des deux termes, parce que on a, d'ailleurs, le langage, justement, couramment dit la tour de Babel, maintenant, on dit jamais.
C'est la ville. La ville, on ne parle jamais de la ville de Babel. Hein?
Donc il restait quand même quelque chose, et puis on voit que ça s'est effectivement
détourné.
En quelque sorte. Voilà, donc c'est juste parce que.
D'ailleurs, je crois que le Malbim, il dit que ir.
Il casse la ville quelque part.
Non, mais c'est intéressant parce que ir, la racine sémantique de ir, c'est air, c'est éveillé.
C'est
en fait, par opposition au village dans lequel tout le monde dort, sous-entendu, c'est une ville de foisonnement. La ville, c'est le foisonnement. C'est tout le monde est réveillé, donc il y a sans doute des choses qui se passent. Ouais, ça foisonne et ça fusionne pas. Ouais, donc en fait, c'est ça l'idée. Ils avaient tous les ingrédients pour créer une sorte d'effervescence et justement, ça se traduit par amygdale, tout à fait. Ouais. Non-communication. Ouais. Non-communication. Ouais. Tout à fait. Ça va, d'accord. C'est là la place du ring.